Donc bonjour à tous, une table ronde qui démarre déjà dans la bonne ambiance. Bravo de vous être déplacé jusque là pour ces oniriques. Ouais, c'est ça, c'est les du direct. Pour ces oniriques de mes yeux. Donc on commence avec une table ronde qui a, on doit le dire, beaucoup bougé. Moi j'ai découvert qu'elle avait bougé encore ce matin, donc c'est magnifique. C'est bon ça?
Non, je pense qu'il faut que tu aies mal.
Ouais, c'est bon là. Non, ça va.
C'est bon, ok. Ouais. Une table ronde qui a donc beaucoup bougé, puisque même les intervenants ont bougé. Mathias Picard devait être avec nous. Il ne sera pas là puisque le sujet a changé. Nous sommes maintenant passés. Enfin, c'est toujours la BD, hein. On va pas parler panier en rotin, même si on l'a essayé tout à l'heure. Mais là, on va parler d'une table ronde donc, qui s'appelle Coincé à deux dans une bulle, la collaboration auteur-illustrateur. Donc, pour nous en parler, nous avons. On va commencer par les dames. Hein. Nous avons l'une des deux têtes de Ange, donc, qui est bien connue des amateurs de BD pour notamment plusieurs séries. On peut citer Marie des Dragons. Le Collège Invisible, ou la geste des Chevaliers Dragons, ça parle beaucoup de dragons. Hein. Et puis, il y a aussi des romans hein, entre Anne et Gérard. Et donc, une petite anecdote assez marrante, c'est qu'il y a 2 ans de ça, pour les premières oniriques, c'était donc la deuxième partie du duo qui était là, et on vous a jamais eu tous les deux pour le moment, donc on peut espérer que dans 2 ans, on vous aura tous les deux. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à cette petite présentation succincte?
Non, la présentation est parfaite.
Nous avons également Monsieur Nicolas Fructus. Donc, on va lire la bonne fiche, ce serait bien. qui...
Je t'aiderai, si.
Ouais, voilà. La délicatesse du trait chez Nicolas Fructus. La sensibilité des couleurs, du tendre du profond, enfin la puissance de ces visions détaillées, riches et vivantes, vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Un univers de papier, un trésor de rêves esquissés, j'adore cette petite, hein, voilà, un ressortissant d'Émile Coll, hein, qui a fait ses armes dans le jeu vidéo, n'est-ce pas, double raison de l'aimer, hein. Et donc, il a plusieurs casquettes, plusieurs œuvres, bien évidemment, à son actif, aussi bien en collaboration qu'en solo. Mmh. Nicolas, veux-tu rajouter quelque chose à cette... On peut citer,
Torin. Oui, je vais juste rajouter aussi que je travaille en fait beaucoup. Je pense qu'on m'entend très bien. Je travaille aussi beaucoup en illustration, et l'illustration de travail implique de travailler sur des textes alors d'auteurs morts ou vivants, là, pour le coup, parce que c'est soit Lovecraft ou Jules Verne, mm-hmm. Et qu'il y a aussi une implication, il n'y a pas que dans la BD, je trouve qu'il y a cette sorte de va-et-vient entre les deux, entre le travail d'auteur et le travail d'illustrateur. Voilà.
Donc, petite preview, nous parlerons justement de Un an dans les airs, illustré par Monsieur Fructus, demain matin, voilà. À 11h, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est
voilà,
ça.
C'est ça. Tout va bien, donc Mathias Picard n'est pas avec nous, comme je le disais, et notre dernier intervenant, c'est Kiro Tota, si je ne me trompe pas dans le prénom. Siro.
Siro.
Comme. Hein, voilà, Siro. Autant pour moi. On va. Ouais. Chiro. Chiro Tota. Donc, qui est un autodidacte, semble-t-il, qui nous arrive d'Italie. Enfin, depuis un moment déjà. Depuis un sacré moment. Il n'est pas arrivé ce matin, mais donc. Qui a commencé en Italie. Qui est maintenant lyonnais. C'est bien ça? Oui, français de Lyon, vrai, français, qui a commencé dans les études sur l'électronique et qui est venu après à l'illustration, en commençant notamment chez Lug, pour Photonic ou Mustang, pour les couvertures, et maintenant chez Glénat, n'est-ce pas?
Chez Glénat,
voilà.
Chez Lugo après,
oui.
Chez Soleil après, et puis chez moi...
voilà. On doit y rentrer, il est rentré chez lui. Donc, donc la présentation a été complétée. C'est parfait. Donc on va commencer tout bêtement, puisque nous parlons de la collaboration et nous parlons également de bande dessinée, d'illustration. J'ai envie de vous demander tout bêtement, quel fut pour vous tous, hein, vous répondez chacun à votre tour, l'appel de la bande dessinée? Comment on en vient à d'un coup se dire je vais faire de la BD? Et du coup, et comment on en vient à se dire celui-là il est génial, il faut que je collabore avec lui pour faire ma BD? Quel a été votre élément déclencheur?
Vous voulez, je sais pas, je trouve déjà il y a deux éléments de réponse déjà, c'est-à-dire que la bande dessinée, il y en a qui vont l'approcher en essayant d'avoir un travail qui est régulier dans la bande dessinée de façon à ce que ça devienne l'activité principale. Et il peut y avoir une forme de BD qui est une BD entre guillemets de commande, c'est-à-dire où on essaie d'associer des dessinateurs et des auteurs aussi pour faire des ouvrages. Et puis il y a aussi des parcours qui sont un peu plus ovnis, où on ne travaille pas forcément directement dans la BD, où on travaille dans d'autres domaines du dessin, et de temps en temps on fait une incursion dans la bande dessinée. Et là c'est un autre rapport aussi au travail, c'est un autre rapport aussi avec les auteurs. C'est-à-dire qu'on peut passer des années à discuter avec des auteurs d'un scénario, de choses, de pistes comme ça, et puis ça reste en plan, ça reste dans les limbes, et puis un jour ça arrive et il y a un vrai travail pour essayer de signer ça. Mais du coup, juste pour la petite histoire, ça m'est arrivé d'avoir des projets qui étaient posés chez différents éditeurs, où les éditeurs ne rappelaient même pas, et par contre, ils sont susceptibles de vous appeler pour un autre projet qui, lui, sera peut-être un projet d'association avec un auteur, parce qu'en interne, ils trouvent que l'association peut être intéressante. Voilà, c'est...
Tout à fait.
Ouais.
On continue avec l'illustrateur, là.
Non, parce que... Ouais, oui, d'accord.
Moi, ce qui m'a fait venir à la bande dessinée, c'est plutôt de l'inculture et puis... Oui, c'est de l'inculture au départ. Quand j'ai pris le dernier train pour venir en France, donc, je ne savais ni lire ni écrire. Et la chose la plus universelle, c'était le dessin. Donc j'ai commencé par dessiner avant d'apprendre à lire et écrire. C'est ce qui a fait que, du moment qu'on arrive un tout petit peu à se débrouiller en faisant des petits grillons, il y a un petit quelque chose, c'est personnel. Et on persévère là-dedans. Ça fait que tous les jeudis, puisque dans le temps c'était les jeudis qui étaient libres, les jeudis, les dimanches, je dessinais tout le temps. Et il y avait des choses qui étaient très pratiques à acheter et à feuilleter. C'était des petites bandes dessinées de kiosque, des formats 13-18. Il y avait du noir et blanc. Les histoires étaient très très simples à comprendre sans avoir besoin de savoir les lire. Et je suis tombé dans leur bande dessinée à ce moment-là, mais je ne pensais pas que j'allais en faire un métier. Alors après, c'est une question d'inculture au départ et de coup de pied qu'on se met au derrière. C'est-à-dire, tiens, il faut quand même se lancer à un moment donné. C'est-à-dire avoir le courage de faire voir les dessins à un éditeur ou à une maison d'édition ou à quelqu'un qui connaît un petit peu le dessin. Donc une fois qu'on s'est mis ce coup de pied au derrière, on est embringué dans l'histoire de relations avec les auteurs, les éditeurs, le public. On ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas comment ça se passe. C'est après tout le coup qu'on se rend compte de tout ça. Mais on arrive à l'âge que j'ai aujourd'hui. Et il y a des fois, je me demande pourquoi j'en suis arrivé là. Et je me demande demain, justement, si je vais toujours continuer à faire de la BD, parce qu'on a on se pose quand même des questions sur ce qu'on fait, sur ce qu'on va faire par la suite. En gros.
Et pour ce qui serait de Ange, du coup
Alors nous, on est arrivé dans la BD par un malentendu, et c'est même pas une métaphore, c'est un véritable malentendu. On était une équipe d'amis, dont mon amoureux de l'époque est devenu mon mari ensuite, notre scénariste, qui faisions du jeu de rôle, parce que c'était la grande mode à l'époque, et un des amis de ce groupe déplaisait à un éditeur. Et cet éditeur, pour faire une mauvaise blague à cet ami, que nous allons appeler Bernard, a dit « Oui, je suis prêt à publier un bouquin dont vous êtes le héros, vous vous rappelez peut-être des bouquins dont vous êtes le héros. »
Oui, j'en ai fait des cartes.
Si tu l'écris. Et en fait, cet éditeur voulait se moquer de Bernard, il voulait humilier Bernard, parce qu'il pensait que Bernard ne serait pas capable d'écrire ce truc. Bernard n'a pas du tout compris comme ça. Il est venu nous le dire. Et nous, tout le groupe, on a écrit le bouquin dont vous êtes le héros.
C'est génial.
Oh là, c'était lequel? Parce que moi, j'en ai fait.
Et il est jamais sorti.
Dommage. Ben non, dommage.
Quand Bernard est arrivé voir l'éditeur lui a rionné. Il lui a dit bah, c'était une blague. Et même, il a rionné. On avait fait un manuscrit comme ça, énorme à l'époque. Mais pendant que tout ça se se passait. Nous, tout le groupe, on était persuadés qu'on était Shakespeare, Balzac, on écrivait un livre. Donc, dans le petit milieu de la bande dessinée américaine et du jeu de rôle qu'on fréquentait à l'époque, on disait, nous, on écrit des livres, nous, on est des écrivains, nous, on est des auteurs. Et voilà. Et j'avais 18 ans à l'époque. Hein. Et un dessinateur de bande dessinée qui est toujours, qui s'appelle Eric Jussézac, nous a entendus, nous les jeunes, dire fou, vous savez, on écrit. Et il était en train de faire une BD dont vous êtes le héros pour Glena à l'époque. Et il coinçait un peu, bah, c'est pas si simple les bouquins dont vous êtes le héros à écrire. Il a dit, ah bon, vous écrivez, on a dit, on est des pros. Et il a dit, est-ce que vous pouvez m'aider à faire cette bande dessinée? Et on a commencé comme ça, et puis bah, on n'a jamais arrêté.
Mais c'est énorme d'arriver sur un malentendu. En plus, je vous imagine bien avec cosplayer chez l'éditeur. On l'a, on le projet. On va tourner le film, c'est bon, les acteurs.
Voilà.
C'est assez, oui, c'est assez magnifique du coup. Et ben, on a.
Pourquoi il n'a pas été édité
Mais parce que c'était une moquerie. C'était. Mais je pense qu'il l'a même pas lu.
Oui, il y a des chances. Ouais. C'est, ça, c'est ça le pire. Ouais. Il aurait pu, pour le coup.
Il aurait pu.
Oui,
ouais,
il aurait pu jouer le jeu, le lire et puis voir si c'était ça avec ça.
Ah, si jamais vous retrouvez le manuscrit, c'est collector, ça.
C'est une belle histoire, ça. Hein.
Ah oui, quoi, bah, complètement, ouais, effectivement. Ouais. C'est... bah, du coup, on a eu plusieurs éléments de réponse dans vos interventions à chacun. Je me demandais, quand vous travaillez, donc en particulier en duo, forcément, en collaboration, puisque c'est maintenant le thème principal de cette table ronde, est-ce que, d'où les éléments de réponse, est-ce que vous restez dans votre bulle, c'est-à-dire est-ce que vous travaillez chacun de votre côté et vous mettez en commun, ou est-ce que c'est une symbiose magnifique et perpétuelle pendant tout le projet? Comment ça se passe? Démerdez-vous avec ça.
Ouais, non. J'adore travailler et seul et en groupe, que ce soit BD ou autre projet, ça peut être en production, ou je trouve qu'il y a des fois, ça nourrit beaucoup aussi de travailler avec 15 personnes, parce que ça remet bien en place l'ego aussi de voir comment 10-15 personnes peuvent travailler en simultané sur une thématique, que ce soit d'ailleurs en scénario ou en image. Hein, je trouve toujours dommage, à partir du moment où on travaille en collaboration avec quelqu'un, justement, de travailler dans son coin quelque part. Parce que si c'est pour travailler dans son coin, moi, j'aime autant le faire tout seul et être tout seul. Quand il y a un travail de collaboration, c'est d'arriver à trouver, mais alors chaque écrivain a son protocole de travail aussi dans les discussions pour faire avancer le projet. Moi, j'ai, pour la partie BD, finalement, je n'ai de réelle collaboration qu'avec Jodorowsky sur une série juste en 3 tomes, donc c'est assez c'est plutôt concis. Pour du Jodorowsky d'ailleurs, parce que il a tendance
c'est pas connu pour être concis,
à beaucoup plus déborder, mais justement ça faisait partie des discussions, ça faisait partie des discussions un peu à bâton rompu, qui était de dire, pour moi déjà d'entrée de jeu, même par rapport à ce qu'il développait en scénario, c'était de dire bon non, Can, moi j'ai envie de faire 2 tomes, je préfère faire 2 tomes qui soient bien, qui aient une histoire bien concise, quitte à faire 20 tomes derrière si ça marche bien, mais dans un premier temps déjà d'avoir quelque chose de très ciblé. Après, il y a 50 000 façons de travailler. Nous, comme on travaillait pour brosser ça rapidement avec Jodo, Jodo, lui, il écrit 35 pages de script avec les dialogues et tout. Ça ressemble plus à une pièce de théâtre, je trouve, presque à un script de BD, véritablement. Suite à ça, moi, je fais un découpage storyboard. Et en fait, je viens le revoir 2-3 mois après en lui racontant son histoire. C'est-à-dire que je reprends tous ces éléments et moi je vais commencer à changer des choses, puis il y a des choses qui me plaisent plus ou moins. Je me dis, ben, ce serait peut-être intéressant d'avoir cet élément-là, ou qu'est-ce qu'il peut en penser si je change ça. Et donc il y a pas mal d'éléments de scénarisation comme ça qui bougent. Et le grand plaisir, c'est de venir lui re-raconter sa propre histoire, en fait, pour que lui la digère et en direct réagisse. Parce que Jodo, pour le coup, c'est un grand improvisateur. Et l'une des choses qu'il n'aime pas trop faire, c'est de se poser et d'écrire. Finalement. Donc je sais que même s'il fait ses 35 pages parce que les éditeurs le demandent et qu'il faut qu'il y ait un calibre, lui il a fait de la BD en live comme ça. Donc,
il a un script, mais quelque part il s'en sépare assez volontiers.
Il s'en sépare assez volontiers, et lui sa première réflexion au premier rendez-vous, c'est de dire écoute Nicolas, c'est toi le réalisateur. Parce qu'à la fin, ce sont tes images qu'on va avoir. Moi, mon histoire, je suis le scénariste et je ne resterai toujours que le scénariste. Donc c'est toi qui mènes l'histoire. Il fait, par contre, de ce que tu vas m'amener, il faut que je puisse réagir pour te dire si, à mes yeux, ça représente les bonnes pistes sémantiques, si ça ne va pas à l'encontre de ce que je pense, etc. Après, fort de ça, donc on peut faire un album sans même s'occuper de Jodo et de dire, bon, bah, je m'en fous, maintenant que j'ai la signature de Jodo, ça marche. Non, et c'est là que commence le travail de collaboration. C'est de lui raconter l'histoire. Lui, il vient taper dedans en disant « Ouais, mais ça, j'aime pas trop, ça, on pourrait le voir comme ça, comme ça, comme ça. » Essayer d'essayer d'adapter, de travailler vraiment de concert, là, pour arriver à quelque chose de cohérent à deux, vraiment, pour que la page, à la fin, même si on est seul à la dessiner, malgré tout, elle transpire le travail de l'auteur. Sinon, je trouve que ça sert à rien. Mmh. Voilà.
Moi, en ce qui concerne la collaboration avec, je vais parler d'Arleston, hein, en ce qui concerne le travail que je fais actuellement, on ne se voit pas énormément, on ne se parle pas énormément. Quand on se voit, c'est vraiment sur des festivals de bande dessinée où on se dit, on va se mettre dans un coin, on va discuter de l'histoire et on n'a jamais le temps. Ou bien quand on a un peu de temps, on parle d'autre chose. Donc c'est vraiment une collaboration un peu bizarre. Par contre, on va à l'essentiel, c'est-à-dire que les communications se font par téléphone, par internet, on envoie des pages et tout ça. Il m'envoie un script très succinct pour parler de l'histoire. On en parle même au départ pour avoir des idées, comme ça, enfin un petit mélange. Après, il en retire ce qu'il a envie de retirer. Et ensuite, une fois que le problème avec Arleston, c'est qu'il travaille sur beaucoup de séries avec beaucoup de dessinateurs en même temps. Donc il ne peut pas bloquer plusieurs semaines, un mois, pour faire une histoire complète et puis envoyer, voir avec les dessinateurs ce que ça va donner. Donc il envoie des petits bouts d'histoire à chaque fois qu'un dessinateur est demandeur. Donc je reçois l'histoire scène par scène. Donc c'est très compliqué d'avoir une respiration dans l'histoire, de varier le suspense sans savoir vraiment ce qui va se passer après. C'est sa façon de travailler. Maintenant, avec le temps, je m'y suis un petit peu fait. J'essaye de poser des questions pour savoir un petit peu ce qui se passe après, mais Christophe me répond, mais je n'ai pas l'impression de vraiment comprendre ce que lui a dans la tête. Et je ne sais pas s'il le sait lui-même, ce qu'il a fait.
Au début d'un album, tu ne sais pas ce que tu vas donner à la fin.
Non. Je ne sais pas. On a un dernier album après, je ne sais pas comment ça va se terminer. J'ai des bouts de scènes, des bouts de pistes. Je ne sais pas comment il va les agencer et dans quel ordre. Moi, je vais avoir à m'occuper de tout ça. Peut-être qu'il y aura des éléments extérieurs qui vont arriver. Ce qui se passe, c'est que j'ai une scène à décrire ou à exprimer. Par exemple, une médiathèque, une conférence dans une médiathèque. Voilà. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Supposons qu'on ne sait pas ce qu'on va faire après, ce que vous allez faire après.
Avec des corps.
Je ne vais pas savoir s'ils sont à l'extérieur de la médiathèque, à l'intérieur de la médiathèque, s'ils sont parmi nous ou pas. Donc il faut se débrouiller avec ça.
Mais ça n'oblige pas à faire des allers-retours constants sur ce qu'on a déjà.
Justement, c'est qu'il y a un aller, mais il n'y a pas de retour. Une fois qu'on l'a dessiné, on ne peut pas revenir en arrière. Donc il faut se débrouiller avec ce qu'on a.
À cause de la prépublication ou parce que...
Non, parce que c'est comme ça, parce que les planches, une fois qu'on a fait 5-6 planches, une scène, on ne peut pas la refaire. 5-6 planches, ça demande 2 semaines, 3 semaines de travail. On ne peut pas reprendre 3 semaines de travail à chaque fois.
Là où l'écrivain, il a passé l'après-midi.
Oui, c'est au mieux.
Donc c'est ce rapport-là. C'est pour ça qu'on fait des découpages, des choses comme ça, pour forcer l'auteur à valider quelque part l'avancement.
Pour que lui, il voit visuellement ce qu'il a dans... Enfin, ce que moi, j'ai dans la tête plutôt que lui, ce qu'il a dans la tête, après, une fois qu'il m'a envoyé le scénario, ça ne m'importe plus du tout. Au contraire, je veux qu'il s'inspire de ce que j'ai fait. Après, c'est son problème. Il me pose tellement de problèmes qu'après, ces problèmes, lui, quand même, je peux les poser. Donc voilà, c'est un travail qui est assez compartimenté. J'ai eu un script de Le Temps, lui, c'était complètement le contraire. Il y avait le scénario complet, les dialogues, tout était écrit à l'avance. Donc on pouvait travailler sur l'ensemble. Donc c'est en fonction de la collaboration avec un auteur, la collaboration va être différente à chaque fois, il faut s'adapter. Croire qu'une histoire est personnelle, c'est fou. Elle est toujours à 2, à 3, à 4, je ne sais pas. Ça dépend, il y a aussi le coloriste qui intervient après. Il y a des gens à qui on conseille aussi, par moment. Donc voilà, c'est faire une définition complète d'une collaboration entre un auteur et un scénariste et un dessinateur, c'est impossible. Ça dépend.
Mais on s'entend très bien avec Kéless. Il n'y a pas de problème. Et
en couple, alors, ça donne quoi?
Alors, voilà, c'est un peu ce que j'avais demandé.
Ce qui est intéressant, c'est que là, on a deux exemples de collaboration radicalement différentes.
Complètement.
Moi et mon ex-mari, mon co-scénariste, on est donc scénaristes, c'est-à-dire tous les deux, on fait l'histoire et on l'envoie à un dessinateur. Et on est complètement coupable de ce que décrit Chiro, c'est-à-dire qu'on fait exactement la même chose que ce qu'il vient de décrire, sauf qu'on est les méchants, qu'on est les scénaristes. C'est-à-dire qu'on envoie au dessinateur deux planches par deux planches ou quatre planches par quatre planches, en fait séquence par séquence. On sait en gros ce qu'on va écrire dans la BD, mais pas forcément en détail. Et donc quand il nous demande, oui, mais j'ai besoin de savoir si les zombies sont à l'extérieur ou à l'intérieur, ben, parfois on ne sait pas. Donc on est exactement coupable de ce qui va être écrit. En fait, quand on a essayé d'écrire une BD à l'avance, c'est-à-dire 46 planches pour nous, parce que c'est franco-belge directement à l'avance, on s'est trouvé confronté à une réaction très violente du dessinateur avec qui on travaillait à l'époque, qui a dit c'est pas possible, je suis enfermé dans une prison si vous me donnez les 46 planches. Donc voilà une réaction différente. Ah ouais. Qui a dit bah oui, tout est serré parce que nous on écrit des scripts très détaillés, très serrés, 9 à 12 cases par planche, beaucoup de descriptions, beaucoup de dialogues, et 46 planches de ça, moi je meurs, quoi, j'étouffe. Tandis que si vous m'envoyez 4 planches par 4 planches, je peux dire bah, attends, planche 8 là, elle est trop dense. La planche 9 est trop dense, donc ce que tu m'as envoyé, ben, il me faut deux planches de plus. Donc nous, on sait que du coup, ok, la scène qu'on a prévue nous ramène à la planche 10, c'est pas à la planche 8. Et il y a quand même un... Du coup, lui a trouvé une meilleure souplesse dans les allers-retours, en fait. Et il est arrivé à certains dessinateurs de nous dire, écoute, c'est dommage, cette scène-là que tu fais en deux planches, il y aurait en quatre, on aurait plus de place, on aurait plus, etc. Et du coup, comme...
Il est là. Hein, c'est...
Tu veux qu'on se le passe comment,
en fait.
Est-ce qu'on peut détacher ce micro?
Parce qu'en fait, vis-à-vis des gens, je pense que peu importe, mais c'est surtout vis-à-vis de l'enregistrement, en fait. Je me demande si tout est bien capté par l'enregistrement. Mais bon, si on va...
Ah, voilà.
Bah, oui, là oui, du coup.
Voilà.
Il y a deux filles là, vous pouvez y aller. Hein. Excusez-moi, c'est pas pour vous.
Non, mais il n'y a aucun mal. Hein. C'est pas de souci, on improvise. Donc allez-y, faites-vous passer.
Et donc voilà. Donc en fait, il y a des réactions vraiment très différentes en dessinateur. Mais il y a des dessinateurs qui ont refusé de travailler avec nous quand ils ont compris qu'on faisait la méthode, on va dire la méthode Arleston, quoi. La méthode Ange. et ils ont commencé, on était ravis. On a commencé à leur envoyer des planches, ils ont dit ah, mais hors de question, quoi. Hors de question, premièrement, hors de question, parce que c'est trop détaillé et que nous, on découpe case par case de manière un peu autoritaire, au contrôle. Donc ils ont dit ah non, moi je ne bosse pas comme ça. Moi ce que je veux, c'est une description générale de la planche, pas case par case, et je veux pouvoir intervenir sur les dialogues. Et puis rapidement, en fait, rapidement, ils ont arrêté. Donc en fait, voilà, il y a des réactions très diverses de scénaristes à dessinateurs. Oui.
Complètement.
Ah, complètement.
Qui ont
dit non, c'est pas possible, moi je travaille pas comme ça, hors de question, je veux plus entendre parler de Anne Gérard. Voilà.
Et vous adaptez ou quoi?
Ah non, bon, on a dit bah désolé, voilà.
Par contre, il y a une chose, je respecte le travail du scénariste, c'est-à-dire c'est d'écriture pour lui. Et je respecte son texte au point près. Bon, il y a des cases, peut-être je rajoute une case, ou bien je coupe une phrase en deux, mais tout le texte est respecté. Parce que la narration, une planche de BD, ça demande un découpage, ça demande une narration. Parfois, dans la tête du scénariste, il a l'action, mais parfois, il lui manque une case.
C'est tout à fait à propos, là. C'est complètement à propos.
Donc, on compense la chose, on fait de la chirurgie à distance, on rajoute une case ou on en enlève, ça dépend. Mais on respecte le texte du scénariste. Je pense que c'est la première... Enfin, c'est lui qui a fait l'histoire, donc c'est le premier intervenant, c'est le premier décideur. Après, on s'adapte. Et je pense qu'il faut être assez diplomate pour arriver à avoir un travail d'ensemble sur le... Et en fin de compte, on retombe tout le temps sur nos pieds, puisque les lecteurs ne s'aperçoivent pas de cette cuisine interne qui est un peu compliquée. Mais nous, des fois, hein, c'est pas quelque chose de très répétitif. C'est pas, c'est pas dans les gènes. On s'adapte tout le temps, il faut toujours s'adapter, n'importe comment.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé aux uns ou aux autres qu'un scénariste refuse complètement une planche que vous avez faite ? L'interprétation n'était pas du tout adaptée ou tout faire au fer ou...
Une case peut-être.
Alors, ouais.
Ça veut dire que vous préparez en amont avec qui vous travaillez. C'est comme des dessinateurs qui ne se voient pas travailler avec certains scénaristes ou certains scénaristes qui ont envie de travailler avec des dessinateurs. Enfin, il y a des univers qui sont comme totalement opposés qu'on ne pourrait pas réunir simplement par bonne volonté. Si, vous y croyez ?
Oui, ben.
Il faut quand même que vous trouviez
oui et non. En fait, il y a ça, et puis moi je le vois plus. Une fois qu'on est dans un album, c'est assez. Je trouve que l'architecture se fait assez, un peu comme on l'a décrite, parfois de façon très différente, mais quand même avec un protocole de travail qui est quand même assez bien défini. Par contre, tout ce qu'il y a avant projet, ça m'est arrivé souvent, pour le coup, je n'ai qu'un seul travail de collaboration édité, mais je dois avoir 3-4 projets comme ça qui ont été posés chez des éditeurs avec des auteurs. Et là, oui, il y a une refaçon quelquefois du travail, c'est-à-dire qu'il y a le... Comment expliquer ? Il y a le script de l'auteur, mais en fonction de ce script, moi je vais faire 2-3 planches de test. Je supporte pas les tests, mais c'est un truc que je déteste. Mais on est bien obligé de passer par là aussi pour présenter un projet. Et je pense que ça doit se ressentir dans le travail, mais ça m'est souvent arrivé de rediscuter avec l'auteur, qui lui-même me disait « Ah, ça, je voyais pas ça comme ça », ou « L'univers, je le vois un peu plus comme ça ». Et du coup, là, il y a un vrai retravail, alors quelquefois sur... Sur deux planches d'affilée, donc sur tout le test, sur la partie test, parce qu'il y a besoin à un moment quand même de caler les choses. Une fois que ces choses sont calées, ça peut être décliné sur 200 pages, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, il faut un maître étalon dans tout ça, et comme chaque projet a ses spécificités, soit de format de page, soit de pagination, soit de même la forme de l'histoire, ben on ne peut pas savoir ce que ça va donner. Donc, enfin, j'ai ce sentiment-là quand je commence une planche sur un nouveau projet, j'ai aucune idée de la tête que ça va avoir à la fin. Parce que quelquefois, il y a des albums, je trouve que c'est intéressant de se dire, bah allez, je vais faire du hors-cadre, c'est-à-dire je fais plus de cadre interne à mes planches, ou alors je ne laisse en dépassement qu'une seule case sur l'ensemble, ou alors et comment je vais l'ancrer, et comment ça va se passer, et ça, j'en sais rien en fait. Parce que ça dépend aussi de l'état d'esprit du projet au départ. Et donc ça peut demander de le faire 2-3 fois, quelquefois. Moi, ça m'est arrivé sur des avant-projets. Voilà.
Est-ce qu'un même projet peut être proposé à plusieurs éditeurs ?
Bien sûr, oui. Oui.
Bien sûr.
Personne ne n'ira. Hein. Oui. Ben oui, c'est comme un... Oui.
Je vais revenir une seconde sur pourquoi les dessinateurs ne refont pas leurs planches. C'est-à-dire, ils nous ont tous les deux répondu, on m'a demandé une case, mais voilà. En effet, le dessinateur et le scénariste peuvent décider que ça ne marche pas au moment où ils se rencontrent. Ouais. Ils peuvent décider que ça ne marche pas au moment du test. Mais une fois que le contrat est signé, pour être clair, on passe à un investissement financier qui n'est pas nul du tout pour l'éditeur. C'est-à-dire que le dessinateur est payé quelques centaines d'euros par planche. Et ça lui prend beaucoup de temps, ça lui prend quoi, une semaine par planche, un peu moins ?
Ouais, c'est ça, c'est
une semaine par planche. Et à la fin du mois, il a un loyer à payer, un emprunt à rembourser, une cantine à payer, etc. Donc, si le scénariste s'amuse à lui dire la planchette et la planche 8, il faut la refaire, ça veut dire que, bah, imaginez votre salaire, soudain vous allez être payé 50% de moins à la fin du mois. Et c'est juste impossible, le décideur va dire bah, non, c'est pas possible. Donc, du coup, il y a un vrai enjeu très fort. On fait refaire une planche, ou le dessinateur lui-même peut décider d'ailleurs de refaire la planche, vraiment dans des circonstances très fortes où on pense que ça a un impact financier très fort et l'éditeur ne va pas s'amuser à lui repayer les planches une deuxième fois. Donc voilà pourquoi c'est un enjeu fort en fait, cette collaboration scénariste-dessinateur.
Il y a aussi une chose qui fait que pas recommencer nos planches, c'est-à-dire qu'il y a des étapes quand on attaque une planche. Il y a un storyboard. Déjà, moi j'envoie un storyboard à Arleston, donc on discute du storyboard. Après, il y a un crayonné, on discute du crayonné. Et là, normalement, on est d'accord sur la page. Le crayonné, c'est plus facile à refaire qu'une page ancrée, n'importe comment. Une fois que le crayon, on est d'accord sur le crayonné, on passe à l'ancrage, et à l'ancrage, normalement, il n'y a pas de problème. Donc c'est très compartimenté au départ pour pas avoir de soucis après. En ce qui concerne la relation avec l'éditeur et son regard sur les planches, l'éditeur nous laisse tranquille. Moi, Delcourt m'a appelé il y a 2 ans, et depuis 2 ans, j'ai pas de nouvelles de Delcourt. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà.
L'éditeur nous laisse tranquille, je pense même, mais ça c'est personnel, je pense même que l'éditeur nous laisse trop tranquille.
Oui.
Et que devrait y avoir un regard plus en amont, on dit ça, non, à Val, sur le scénario, et je dis ça en tant que scénariste, sur le scénario avant qu'il soit donné au dessinateur, parce que un romancier, son roman, il est relu, quoi, il est relu,
ouais,
il travaille, etc. Et nous, ça ne l'est pas. Peut-être
que c'est parce que vous faites des séries qui fonctionnent, qui se vendent, qui marchent.
Non, tout le monde,
personne n'est à l'abri.
Et je pense que c'est un tort.
Ouais, à ce sujet-là, moi je me souviens, sur ma première série... non, on n'en est pas moins respectueux, mais
il n'y a que vous pour bosser les
éditeurs. C'est éditeur ou directeur de collection d'ailleurs.
Ouais,
parce que c'est. Oui, alors. Parce que. Voilà, avec le directeur de collection, moi j'ai des souvenirs assez hallucinants, c'était aux Humano. Donc c'était au début des années 2000. Et là c'était sur ma première série, et je l'ai faite toute seule. Donc là je livrais un scénario, et tant que le scénario n'était pas validé, évidemment, je ne commençais pas une planche. Et c'est au 3e tome, on en était à la 50e discussion, et j'en étais à la 36e mouture du scénario, j'ai tout posé un jour, j'aurais dit, mais vous vous rendez compte que vous êtes les directeurs de collection de Jodorowsky, vous lui faites la remarque que vous me faites là, parce que j'en avais jusque là, je me disais, mais finalement de quel droit, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je faisais des modifications, je changeais les pistes et tout, pour moi ça changeait vraiment profondément la nature de l'histoire, donc, j'en ai, mais vous faites la même chose avec les gros, en guillemets, c'est-à-dire ceux qui vendent vraiment et tout. Ils font oui, par contre, ils ne nous écoutent pas forcément. Donc, il y a aussi ça. Après, c'est un rapport humain. Ce qu'on a décrit dans le rapport humain entre l'auteur et le dessinateur, il y a la même chose aussi entre l'éditeur, et puis enfin le directeur de collection, et puis l'auteur du scénario et le dessinateur. S'il y a pas, et le point faible du coup des Humano, c'était pas sur l'écriture ils étaient ultra pénibles, parce que l'un des directeurs de collection est un écrivain, c'est un copain d'Arleston d'ailleurs, ils viennent tous d'Aix-en-Provence, dans le tas il y a d'autres écrivains aussi, écrivains littérature fantastique, Claude Eken et Bruno Le Signe qui est aux Humano, et Bruno Le Signe c'est un écrivain, il a fait des livres, donc c'est sûr que quand on lui présente un scénario il vous lâche pas, hein. Mais il va pas lâcher d'un iota parce qu'il dit ça fonctionne pas mon gars, ça il faut refaire. Donc, par contre, j'ai envie de dire, le seul défaut qu'il y avait justement aux Humano dans cette période-là, c'est que une fois que ça s'était validé, d'un point de vue dessin, là, il lâchait prise, en fait. Parce que quelque part, pour lui, c'était acquis, l'histoire fonctionnait, et il n'y avait plus besoin de ce retravail avec le dessinateur. Et il y a d'autres éditeurs qui vont plus axer leur travail de vérification sur la partie dessin. Voilà.
Dessinateurs qui n'étaient pas forcément très classiques.
Oui.
Alors que Delcourt, c'est pas tout à fait non plus le même type d'édition, ni le même type.
Tout à fait. Donc c'est pas le même travail. Ouais, tout à fait.
Delcourt ne fera pas ce genre de choses.
Oui, je voulais juste dire que l'expérience que vit Nicolas, donc, ben moi j'ai jamais vécu, c'est-à-dire personne n'a jamais regardé nos scénarios. Et je pense que c'est toi qui as raison, c'est-à-dire que ce sont des éditeurs qui sont axés sur le dessin. Et je pense qu'il pourrait y avoir un équilibre entre chaque mot et vérifier.
Mais moi, je n'ai vécu ça qu'aux Humano. Hein.
Ouais.
Parce que tous les autres éditeurs, je voyais passer des scénarios, je me disais, mais ils disent rien, là. En fait, ils lisent, ils disent, ouais, ok. Ben non, enfin, je veux dire, un livre, on voit ce qui se passe pour un livre.
Ils ont des mots-clés.
Un livre, il est réécrit par l'éditeur. Hein.
En ce qui me concerne avec Arleston, même avec Kaito, quand je dessine avec Kaito, je pense que personne ne leur a demandé de reprendre un texte.
Ouais.
Jamais. C'est même moi qui ai demandé des fois, il y a un truc qui ne va pas. Là, ils le font. Ce serait l'éditeur, je pense que il ne lâcherait pas le bout de gras. Mais avec un dessinateur, puisque... Il y a une collaboration qui se fait, hein. c'est vraiment, on fait un travail à deux têtes, donc il y a plus de, peut-être on a un tout petit peu plus de poids par rapport à un directeur de collection ou à un éditeur. Et Donc c'est pour ça que Arleston et Kaito imposaient leur scénario, imposent leur scénario aux éditeurs. Parce que c'est des gros, comme on disait, et un éditeur ne va pas demander à un de ses meilleurs vendeurs, de auteurs vendeurs, de changer sa façon de faire.
Et c'est jamais le dessinateur qui décide qui s'impose ?
Bah, le dessinateur il s'impose, il peut s'imposer par dessin, mais ça ne va pas plus loin, quoi.
Non,
on peut avoir des différences de vues, mais
ouais.
c'est un film sur un album, c'est sur certaines scènes. C'est... Bon, il y a des fois, bon, on se demande où va le scénariste. On se dit non, il aurait mieux fait de prendre une certaine piste. Mais parfois, il nous étonne. Il arrive à tomber sur ses pieds, et là, on se dit ouais, quand même. Moi, je suis dessinateur, lui, le scénariste, il est fort. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Hein.
Ouais, mais quand on ne connaît pas une BD, enfin, je ne sais pas, je suppose que je ne suis pas la seule comme ça, je ne connais pas le couple Ange ou... Moi, j'ouvre un album, ce que je regarde, c'est le dessin. Le scénario, je n'ai pas le temps de le lire au magasin. Donc, ce qui va m'attirer vers la BD, c'est le dessin au premier abord. Bon. Si je le lis, si je l'aime...
Oui, mais ne jamais oublier que la qualité du dessin dépend du plaisir qu'a pris le dessinateur à travailler sur un scénario. Ah ouais, mais ça change énormément parce que même sur des gros dessinateurs,
mais c'est vrai qu'il y a de l'alchimie dans l'histoire.
Même sur des gros dessinateurs, s'ils ont mal travaillé en collaboration, ça se sent tout de suite sur le dessin et ça fait des choses moins bien et ça fait chuter les ventes hein, aussi.
Ouais. Je préfère un dessinateur et pas un scénariste, par exemple.
Oui, tout à fait, oui. Et dans ce cas-là, du coup, pardon.
Du coup, c'est pas forcément le directeur artistique ou l'éditeur qui a choisi le scénario.
Oui, mais
pour un client premier, c'est planté.
L'acte d'achat se fait comme sur les couvertures de livres en littérature, hein, c'est pareil, c'est la couve, ce qui est lamentable parce que souvent, bien souvent, le livre n'est même pas lu par
l'illustrateur.
Donc, oui, mais justement, ça pose un problème. Sauf qu'il ne faut jamais oublier que la pérennité de l'ouvrage ne se fera que par le scénario. Hein.
C'est le scénario qui est là.
D'accord. Admettons, on fait travailler le plus gros dessinateur sur une couve de livres, eh ben, ça va en vendre 5000 d'un coup au lieu de 2000, mais ça en vendra 5000, point. C'est un peu comme un film qui va sortir avec un budget comme à 100 millions pour faire une sortie monde, ok, mais le film il va faire 120 millions de rentrées parce que les gens ils vont le voir la première semaine parce que très bourrinement ils sont tous allés voir le film parce qu'on leur a dit d'aller le voir. Mais si l'écho est mauvais, plus personne n'y va. Hein. Ça s'arrête. Hein.
En BD, ça marche beaucoup par série quand même.
C'est ouais, en BD, en plus, ça marche par série. Donc, il y a quand même. Faut pas planter le truc sur le scénario. Enfin,
L'embêtant, c'est qu'il y en a qui attendent que la série se termine pour acheter les albums.
Non.
Ah, bah oui.
C'est vrai.
Ça vient des éditeurs aussi qui ont tendance des fois à arrêter avant.
Bien sûr.
On hésite.
Mmh.
Alors, ils veulent pas continuer. Donc,
et c'est tout à fait légitime.
Ouais.
Je vais reprendre le guidon deux secondes.
Vas-y.
Non, c'est génial ce que vous faites. Bonjour. Non, c'est génial au contraire ce que vous faites parce que du coup la table ronde elle ronde toute seule.
Elle est ronde.
C'est limite ça. Je peux aller boire un café. En plus on a des vieux notaires qui sont arrivés. C'est super. Non, très honnêtement c'est génial parce que du coup vous répondez aux questions que j'ai pas posé, donc enfin que je prévoyais de poser mais que j'ai même pas besoin de lancer avec le public parce que ça se fait tout seul. Non, j'avais justement une question et vous y avez largement répondu, donc on va la sauter mais je la pose quand même. Celle au niveau des difficultés que vous rencontrez dans votre travail justement. Donc on a beaucoup parlé des rapports avec les gens, des rapports avec les acteurs du circuit, voilà, entre celui qui balance une vanne, qui s'attend à une grosse blague et qui se retrouve avec un scénar complet, ou le directeur de collection, le scénariste, voilà. Mais du coup, et on vient de commencer un peu à l'aborder ici, enfin dans les derniers échanges, la question que j'allais poser, c'est que parfois, vous êtes illustrateur et auteur de vos œuvres. Et je pense notamment, surtout à Ange, qui ne fait pas que de la BD, qui fait aussi du roman. Et je me disais que le travail, et on en a parlé avec l'éditeur qui ne travaille pas de la même façon avec un roman que sur une BD, le travail de création et le contact dans le circuit du livre n'est peut-être pas le même quand on est auteur d'un roman, auteur d'une BD et illustrateur ou illustrateur d'une BD. Il y a peut-être vraiment de grosses différenciations de dialogue et de difficultés. Que voilà qu'on pourrait réaborder ici.
qu'on a dit, ouais, peut-être, non. Parce que... ouais, non, non, c'est une vraie question.
C'est une vraie question. Ouais.
Auquel je ne sais pas répondre. Ah. À laquelle je ne sais pas répondre. Ok, ce que je peux dire, c'est que j'ai travaillé souvent en couple. C'est-à-dire que j'ai travaillé en couple scénariste-dessinateur. Je travaille en couple avec mon co-scénariste sur les BD. Et j'ai d'autres projets, par ailleurs, avec qui j'ai travaillé donc, toute seule, sans mon scénariste, mais avec d'autres co-scénaristes. Et Gérard, de son côté, a travaillé aussi avec d'autres co-scénaristes. Donc, travailler à deux, c'est un truc que je fais depuis toujours. Et ce qui est très, très étonnant, c'est qu'il n'y a pas de règle et que chaque collaboration est différente. C'est-à-dire que j'ai été dans des collaborations où il était très clair que c'était l'autre le chef, c'est-à-dire que l'autre, il avait décidé avant de... Voilà, quoi. Et donc... Il avait une histoire, il me parlait de son histoire, c'est souvent il, j'ai jamais travaillé avec une femme. Il était clair que j'étais là pour rebondir, discuter, lui donner d'autres idées, etc. Et puis, bah, très bien, enfin, je veux dire, pourquoi pas, on n'a pas. Voilà. Et donc, pour cette personne A, ben, j'étais là pour aider A à développer son histoire. Et très bien, c'est très agréable. Ensuite, il y a des collaborations totalement égales. C'est-à-dire qu'on est là, je donne une idée, il donne une idée, on rebondit, le truc se construit. Et il y a un respect qui se sent, ne serait-ce que parce qu'on ne s'interrompt pas, par exemple. On va parler à temps égal, alors on ne minute pas, mais je sais qu'une collaboration est égale si à la fin, quand une heure est passée, la personne a parlé une demi-heure et j'ai parlé une demi-heure, évidemment par petits incréments. Et il y a des collaborations où j'ai pris où c'est moi qui suis devenue, qui ai pris le lead. Je ne voulais pas, mais ça s'est fait comme ça, en fait, parce que peut-être la personne a trouvé mon idée meilleure et donc s'est adaptée. Et il y a aussi des collaborations agressives. Hein. Il y a des collaborations difficiles, agressives, où on s'engueule et où, à la fin, le produit est quand même très bon.
J'ai eu à faire les deux, c'est-à-dire que j'ai fait du dessin et puis du scénario en même temps. Et... il y a une différence entre travailler seul sur une BD, dessin, scénario, et travailler avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quand on travaille seul, quand j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre, à chaque fois je me disais, bon là, il m'envoie où là ? Il y a les personnages qui vont rester pendant 10 pages dans la même pièce, autour d'une table en train de manger, je vais avoir des fourchettes, des couverts, des trucs, les chandeliers, il va falloir, les chandelles, il va falloir que je les mette... à un endroit précis pour pas que ça passe devant le visage, il va falloir que je me dise oh là là, ça va être compliqué. Donc je lui en veux. je lui en veux énormément. Par contre, quand je travaillais pour moi-même, j'avais des scènes très compliquées à faire, mais je ne me posais pas la question de me dire oh là là, ça va être difficile, il ne faut pas que je le fasse. À aucun moment. Ça fait que quand on travaille avec quelqu'un, on est toujours contre lui, on pense qu'il va nous poser des problèmes à chaque fois. Où il faut essayer de résoudre, mais quand on travaille seul, on ne passe pas du tout à tout ça. On essaye de mettre le maximum de soi-même, de ce qu'on a à l'intérieur, pour essayer d'en mettre, pas d'en mettre plein la vue, mais pour essayer de se satisfaire déjà, au point de vue dessin. Et on se dit, du moment qu'on est satisfait nous-mêmes, qu'on a mis tous les ingrédients pour satisfaire nous-mêmes, on va satisfaire le lecteur. Donc c'est une démarche différente. On est plus libre, bien sûr, on est plus responsable aussi, mais avec une autre personne, on est plus sécurisé. Alors quand on travaille avec des grands scénaristes, c'est encore plus sécurisé, c'est sûr. Ça planifie tous les problèmes qui peuvent se poser quand on est débutant, qu'on arrive à avoir qu'on doit avoir un nouvel éditeur avec un nouveau projet. Et ça, y aller avec une personne... qui a déjà de la bouteille dans le métier, c'est beaucoup plus facile, pas pour arriver à placer un projet, parce qu'il y a toujours une discussion avec l'éditeur, plus les tests à faire, puisqu'on est obligé de faire des tests, on a beau avoir des dizaines d'années d'expérience, on fait toujours des tests pour attaquer une série, il faut toujours passer par des pages d'essai. Donc, on sait quoi. Ça va marcher, mais on a la responsabilité, justement, du moment qu'on a tous les atouts en main pour que ça marche, justement, de ne pas décevoir. Et c'est toujours des challenges. À n'importe quel niveau, à n'importe quel moment de sa vie professionnelle, c'est toujours des challenges qu'il faut surmonter. Voilà.
Pas mieux.
Du coup, on va mine de rien arriver plus ou moins sur la fin. On va ça quand même avoir un tout petit peu de temps parce qu'on a commencé un peu en retard. C'était super complet. Hein, je crois qu'on peut. Oui, donc j'allais passer la parole au public, même si ça a été fait tout au long de. Mais là, du coup, je la passe très officiellement au public si vous avez envie de réagir encore. Encore à ce qui a été dit.
En effet, je me pose une question, même si je suis pas sûr que vos expériences personnelles vous permettent de répondre. Je me demande s'il a pu vous arriver, par exemple, une collaboration avec une personne échoue, entre guillemets, même si c'était pas souvent pas le statut, par la fois, visiblement, échoue sur un projet, et au final, de retenter une collaboration avec la même personne sur un autre projet, et que ça se passe.
C'est une bonne question, j'ai pas pensé moi-même.
En l'occurrence c'est personnellement en plus ça peut être sur différents domaines parce que ça m'est arrivé il y a 8 ans j'ai rencontré pour la première fois Mathieu Gabory. On a commencé à travailler par un ami commun sur je n'avais jamais lu de Mathieu de Mathieu et on a travaillé sur un projet de jeu. Pour du jeu de plateau, on est tous joueurs, jeu de rôle, plateau, tout ça, donc on commence à démarrer là-dessus. On est toujours sur ce projet, hein. Ça fait 8 ans, c'est en train de s'affiner et tout a changé 10 fois. Justement, le projet a complètement avorté, mais on a travaillé tous les deux sur 3 mois, en se voyant au moins 2 fois par semaine, et à délirer. Mais vraiment à délirer, à dire, ben voilà, on part de cette idée-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Et à discuter d'entrée de jeu, en prenant tout de suite le binôme dessinateur-écrivain, pour essayer de développer, pour ce jeu de plateau, tout l'univers sous-jacent du jeu, pour que, si jamais le jeu marche, on ait tous les tiroirs ouvrables pour développer l'univers, et l'adapter sous d'autres formes, pas forcément jeu de plateau, mais jeu de rôle, etc. Donc, ça peut être des montages compliqués. Sinon, nous, on avait envie de s'amuser. On s'amusait pendant 3 mois, à tel point que j'ai découvert à ce moment-là que Mathieu, par exemple, fait partie pour moi des écrivains dessinateurs. C'est-à-dire que c'est un écrivain qui écrit comme moi je peux dessiner, comme moi je peux représenter par le dessin. C'est un truc très bizarre. C'est-à-dire que il y a quelque part, le dessin n'ajouterait rien. Si j'avais dessiné une scène de Mathieu Gabory, ça n'apporterait pas plus que son texte. Il faut que je dessine à côté, ça c'est clair. Donc on a beaucoup travaillé comme ça, c'est-à-dire qu'il avait une façon de construire sa pensée qui était, ça a été vraiment une révélation, j'ai eu l'impression de découvrir un frère de création, si on pourrait parler ainsi. Alors qu'on ne s'était jamais rencontrés, on a en plus navigué dans des travées mais vraiment parallèles pour le coup, et on ne s'était jamais croisés. Depuis, on ne se lâche plus. Alors, il y a plein de projets, justement, et on essaie de remettre le couvercle sur d'autres projets, sur d'autres... Mais oui, ça permet de... C'est une expérience foirée, mais qu'on essaie quand même de valider, qui a complètement changé. Et du coup, on essaie de mettre ça au service d'autres projets. Mais finalement, bien qu'on soit très proches, c'est super difficile. Parce que la preuve, ça fait 7-8 ans qu'on se connaît. Il y a très peu de choses qui sont sorties, co-signées. Alors qu'on se voit régulièrement et qu'on adore travailler ensemble. Donc après, il n'y a pas forcément de lien de cause à effet non plus entre ces deux choses. Même si, bon, dans les mois et les années qui viennent, il y a 2-3 projets en commun. Donc ça continue. Mais je ne sais pas si ça répond, mais il y a des... c'est pas dans le sens où on s'est accroché dans un premier temps et puis on a reconstruit quelque chose après. Hein. C'est pas dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi au travers de ce genre de choses. Et juste, je suis désolé, je suis très bavard. Et l'autre chose, c'était avec Jodorowsky. L'histoire, par exemple, de Shaman Killer, c'est juste une histoire absurde. C'est-à-dire que c'est un projet qui traînait aux humanos que Jodorowsky avait d'abord écrit pour Jiménez. Jiménez avait dit non, là, au-delà des métabarons, j'en ai marre, je veux travailler tout seul, justement. Je veux faire mes propres albums, tout seul dans mon coin. Voilà. Il a le droit à 70 ans. Jodo, qui en a 80 et quelques aussi, lui, il était là. Non, on continue. Du coup, moi j'avais fait une première série de tests du temps des humanos en interne sur Shaman Killer, test refusé par l'éditeur, test n'est même pas remonté jusqu'à Jodo, à l'époque. Le scénario a été vendu par les humanos à Delcourt, qui rachetait des dettes. Et pour racheter ces dettes-là, elle rachetait des scénarios de Jodorowsky qu'il voulait réexploiter sur Delcourt. Et là, Delcourt m'appelle sans savoir que j'avais déjà fait les tests. Et en plus, il tombe sur moi alors qu'il voulait contacter un autre dessinateur qui est un copain et qui avait mon nom en lien. Et la directrice de collection a cliqué, elle est tombée sur mon site et elle a fait « Ah, ça pourrait être marrant, il y a des humanos aussi ». Voilà, en gros, ça s'est passé comme ça. Donc après, il y a toute une... Justement, ils voulaient me faire un test. J'ai dit, allez vous faire voir. J'ai déjà détesté faire ce premier test. Je referai pas. Hein. Et puis ils me disent, non, mais c'est pas possible. On peut pas signer comme ça. Je dis, ok, mais alors je fais une mise à jour de ce test. Je vous dis vers quoi, parce que ça faisait 2 ans. Je vais vous dire vers quoi j'ai envie de pousser ça. Et j'ai fait des tests dans ce sens-là. Et du coup, on a pu faire cette collaboration. Et en même temps, Jodorowsky voulait travailler avec moi du temps où je faisais ma série aux humanos, et c'est moi qui n'ai pas voulu, parce que je voulais continuer à travailler sur mon propre travail, et pas m'empêtrer dans un travail qui aurait été plus, ce que je disais au début, plus du travail de commande quelque part. Et le côté jeune auteur travaillant avec Jodorowsky, ça peut être vite catastrophique. Donc je ne voulais pas rentrer dans cette synergie-là, et j'ai préféré attendre, et puis ben voilà, du coup ça s'est fait, mais plusieurs années après, et de façon complètement non euclidienne.
Du coup, merci Nicolas. Je vais laisser répondre les autres s'ils le souhaitent, et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus, parce que j'ai pas le droit de trop déborder. Moi perso, je continuerai encore une heure en plus, hein, mais de toute façon, vous pouvez les retrouver tout au long des oniriques. Ils seront à leur stand, ils seront à leurs activités diverses et variées prévues dans le programme. Et je pense que si vous voulez poursuivre cette conversation, ils seront absolument ravis de le faire avec le même enthousiasme. Ou pas d'ailleurs, mais ça c'est à vous de voir. Et peut-être avec le même enthousiasme s'ils ont pris le café qu'est-ce qu'ils ont fait là tout au long de cette table ronde. Donc je vous laisse, si vous voulez.
En fait, toi, tu nous as raconté une super belle histoire. C'est génial, l'histoire de ce projet. Moi, j'ai une histoire atroce sur les collaborations qui ne marchent pas. Pour le tome 4 de La Geste des Chevaliers Dragons, c'est un tome qui est très noir. C'est un tome où il y a plein de morts et plein de femmes qui meurent, parce que les Chevaliers Dragons sont des femmes dans mon histoire. Mon histoire, dans notre histoire. Mais il est noir. Alors, tu veux savoir ce qui se passe, la vraie histoire du tome 4. Un premier dessinateur a lu le scénario et a dit « Non, hors de question, c'est trop noir ». Un deuxième dessinateur a commencé à travailler sur le scénario et il s'est suicidé. Alors évidemment, on ne s'est pas suicidé à cause de notre scénario, je suppose. Vraiment, le fait que il a reçu sa planche et au 31 décembre, il était mort, il s'est suicidé devant sa famille. Philippe Rionnès, un dessinateur extrêmement doué, sympathique et charmant, a repris le bébé, en plus pour nous rendre service, parce qu'en plus on avait un problème éditorial là-dessus, sans compter d'un problème humain. Et il a commencé à travailler, et au moment où il dessinait une des scènes les plus horribles où les filles brûlent les cadavres de leurs copines, etc., sa mère est morte. Et voilà, il a fini l'album. C'est mon histoire.
Le mot de la fin, génial.
Et vous ne pouvez pas conclure sur
un homicide, s'il vous plaît.
Vous
n'êtes
pas dit à un moment, on ne prend pas le tome
4. Non, là,
sur ces paroles absolument magnifiques
et positives,
c'est la pêche. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de faire cette table ronde avec vous. Mais c'est pas ironique là pour le coup, hein. c'est vrai. Nicolas, on va se retrouver demain matin pour la table ronde Ulysse. Je fais une confusion entre les deux tables rondes, super. Donc table ronde sur Ulysse pour moi cet après-midi, et puis pour Nicolas, donc un an dans les arts avec Jules Verne évidemment. Quant à moi, je suis Clément Pellissier, donc modérateur. Qu'est-ce que je fais là? On m'a appelé parce que je suis doctorant sur littérature de l'imaginaire, en particulier sur la BD, et mon thème de thèse c'est les super-héros, donc ce qui explique en partie qu'on m'ait demandé d'intervenir sur la BD, même si on n'a pas parlé de super-héros, encore que on nous a montré des parcours assez héroïques de la part de nos auteurs et illustrateurs ici présents. Donc je vous remercie vraiment tous d'avoir aussi bien collaboré, d'aussi bonne grâce, c'était vraiment sympathique. Et puis merci au public d'avoir participé.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Voilà.